Place au journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur les suites du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump mardi soir, qualifié de pire débat de l'histoire des États-Unis par la presse américaine. La commission électorale va prendre des mesures pour éviter que les prochains débats ne tournent à la cacophonie. On ira à Cuba, le pays est en pleine débâcle économique en raison des sanctions américaines renforcées par l'administration Trump. Domitille Piron nous expliquera comment le marché noir a repris de la vigueur sur place. Et comme tous les jeudis, notre rendez-vous avec le Nouvelliste en Haïti. Franz Duval nous parle aujourd'hui du nouveau budget adopté hier en Conseil des ministres. Aux États-Unis, la polémique après le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump, les deux candidats à la Maison-Blanche, cacophonie, invective, attaque personnelle, non-respect du modérateur. Il a été qualifié de pire débat de l'histoire des États-Unis. Résultat, des mesures pour maintenir l'ordre lors des prochains débats vont être annoncées par la commission électorale. Loubna Naki à New York.
Pour la commission qui organise les débats présidentiels depuis 1987, la débâcle de mardi soir ne peut se répéter. Des changements sont nécessaires pour apporter une structure au prochain débat, a annoncé le président de la commission bipartisane. L'objectif est de permettre des échanges cohérents sur les sujets évoqués. On ignore encore quelles seraient ces nouvelles règles, mais certains commentateurs suggèrent de donner la possibilité au modérateur de couper tout simplement le micro du candidat qui ne respecterait pas le débat. En tout cas, Donald Trump estime avoir battu Joe Biden mardi soir, et quand les journalistes lui redemandent pourquoi il n'a pas condamné clairement les groupes d'extrême droite, le président répond.
Je ne sais pas qui sont les Proud Boys. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils doivent se retirer et laisser la police faire son travail.
Joe Biden, lui, faisait une tournée dans l'Ohio et la Pennsylvanie, des terres industrielles, à la rencontre de syndicats et de travailleurs. Il a accusé le président d'être, je cite, « une honte pour le pays ».
Ce que j'ai vu mardi soir, c'est qu'il n'a parlé que de lui-même. Il ne s'est pas adressé à vous, ni n'a évoqué vos préoccupations. Donald Trump a rompu sa promesse. Il a dit qu'il était candidat pour défendre les Américains oubliés, mais il vous a oublié dès qu'il a été élu.
Les nouveaux sondages indiquent que Joe Biden aurait légèrement remporté le débat. Les deux candidats doivent à nouveau s'affronter les 15 et 22 octobre prochains. Loubna Naki, New York, RFI.
Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On revient avec vous, avec la revue de presse des Amériques, sur ce premier débat, près de deux jours après ce débat entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Eh bien, les critiques fusent.
Eh oui, débattre avec Donald Trump, c'est comme affronter un chimpanzé armé d'une mitraillette, explique l'éditorialiste du Devoir, qui reprend là l'expression employée par un journaliste du New York Times. Un débat qui a été une véritable séance de torture mentale, titre même le quotidien canadien. L'éditorialiste explique d'ailleurs qu'il ne s'attendait pas à autre chose de la part de Donald Trump. On se doutait bien qu'il s'attaquerait à Joe Biden sans vergogne, avec un mépris et une déraison décuplée, peut-on notamment lire. Un débat qui n'augure rien de bon, selon le Devoir. L'après 3 novembre sera compliqué, tendu, dangereusement tendu, annonce d'ores et déjà le quotidien.
Et une analyse que ne partage pas le modérateur de ce débat, le journaliste de la chaîne Fox News, Chris Wallace.
Oui, c'est en tout cas ce qu'il confie dans une interview au Los Angeles Times, même s'il reconnaît que ce n'était pas le débat qu'il envisageait. Selon lui, cette première joute verbale aura tout de même été révélatrice, notamment de ce que les candidats, pensent vraiment. Un débat interrompu en permanence par des interventions de Donald Trump, qui n'a eu de cesse de couper la parole à son adversaire Joe Biden. Sur cet aspect, Chris Wallace avoue avoir jeté l'éponge rapidement, voyant qu'il était impossible de rappeler à l'ordre Donald Trump.
Et direction le Québec à présent, Romain, où depuis minuit, de nouvelles mesures sont en vigueur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, puisque cette province canadienne est passée en zone rouge, Romain.
Oui, les bars, les salles à manger, les cinémas, les salles de spectacle et plusieurs autres lieux de rassemblement sont désormais fermés, explique la presse. Des mesures qui ont été encore renforcées hier pour que les policiers fassent respecter les consignes sanitaires dans le contexte où la pandémie s'accélère, selon les autorités locales. Québec serre la vis aux récalcitrants, explique le journal de Québec. Des amendes de 1 000 $ canadiens seront désormais distribuées sur le champ en cas de rassemblement interdit à la maison, de même qu'aux manifestants qui refusent de porter le masque et aux résidents des zones rouges qui se rassemblent entre amis dans les parcs. On ne fait pas ça pour le plaisir, la situation est critique, a expliqué hier le directeur national de la santé publique. Si des gens ne comprennent pas et mettent la vie des autres en danger, là, ils vont comprendre, peut-on lire dans les pages de la presse.
Direction l'Argentine. Argentine, Romain, un pays qui pleure aujourd'hui la disparition à 88 ans du dessinateur Joaquín Salvador Lavado, plus connu sous le nom de Quino, le père de Mafalda.
Oui, un décès qui fait la une d'une grande partie de la presse argentine, et pas seulement, car les histoires de Mafalda, petite fille malicieuse, étaient suivies sur tout le continent, et même au-delà, détaille Perú 21. Le quotidien argentin Página 12 ose une comparaison avec une anecdote sur Picasso. Lors de l'occupation, des soldats allemands auraient fouillé le domicile du peintre espagnol et lui auraient demandé si c'était lui qui était l'auteur du Guernica, ce à quoi il aurait répondu non, c'est vous qui l'avez fait. Pour Página 12, les vignettes des histoires de Mafalda représentaient également les maux éternels de l'humanité à l'image de la toile de Picasso. Le quotidien La Nation met en ligne aujourd'hui sur son site une série de dessins réalisés par des humoristes et dessinateurs du quotidien qui rendent hommage à Quino et à Mafalda, un personnage hors du temps et qui aura été un véritable phénomène social, estime l'éditorialiste de Clarine.
Merci beaucoup Romain Lemareski pour cette revue de presse des Amériques. On revient à présent sur cette affaire au Pérou. Entre 1996 et 2001, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées. Près de 20 ans après les faits, des victimes portent plainte contre l'État péruvien auprès de l'ONU, déposée par deux associations. Cette plainte concerne 5 cas emblématiques de femmes stérilisées de force dans le cadre de ce vaste programme de planification familiale mis en place par le gouvernement d'Alberto Fujimori. N'ayant toujours pas obtenu réparation, les associations de victimes en appellent même à la communauté internationale. La correspondance à Lima de Violaine Munoz-Boileau.
C'était en 1996 à Lima. Maria Elena Carbajal, alors enceinte de son 4e enfant, se rend à l'hôpital pour accoucher, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Après l'accouchement, ils ne m'ont pas tout de suite apporté mon fils qui venait de naître. On m'a mis la pression pour que j'accepte la ligature des trompes en échange de mon fils. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était irréversible.
Comme elle, entre 1996 et 2001, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées de force au Pérou, alors même qu'Alberto Fujimori, président de la République à l'époque, avait déclaré devant les Nations Unies que ce programme reposait sur le consentement des femmes. Certaines des victimes ont porté plainte sans résultat, comme l'a constaté Christian Berndt, avocat de Justice et Réparation, l'une des associations à l'origine de la plainte déposée à l'ONU.
20 ans après, il n'y a toujours aucune condamnation, aucune indemnisation ou réparation, alors qu'il y a clairement eu violation des droits de l'homme, avec de graves conséquences physiques et psychologiques pour ces femmes.
Avec les 5 cas présentés au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de l'ONU, les associations cherchent à créer un précédent pour obtenir réparation et justice pour toutes les victimes de stérilisation forcée au Pérou. Vilo Minos-Boileau, Lima, RFI.
Direction Cuba, qui traverse une crise économique sans précédent. Les sanctions américaines accrues par l'administration de Donald Trump et la crise du coronavirus, avec la fermeture des frontières au tourisme, ont porté un coup fatal à une économie déjà chancelante. Résultat, Cuba doit faire face à des pénuries liées aux difficultés d'importation. Cuba qui importe 80% de l'alimentation qu'elle consomme, et dans ces conditions, le marché noir est toujours aussi florissant malgré les tentatives de l'État pour y mettre fin.
Sans le marché noir à Cuba, on ne pourrait pas vivre, dit ce jeune homme dont le prénom a été modifié. Dans cette petite maison d'Holguín, Alejandro et sa mère, que l'on appellera Maria, se consacrent à la revente au marché noir. Le jeune Alejandro voyage habituellement à l'étranger pour ramener des vêtements et produits d'hygiène, mais la fermeture des frontières imposée par la crise du coronavirus depuis mars dernier a mis fin à son petit négoce.
C'est malheureux, mais on ne nous fournit pas suffisamment de choses pour couvrir nos besoins de base. Donc, si on ne nous approvisionne pas suffisamment, on doit chercher une autre voie pour s'approvisionner nous-mêmes.
Faute de pouvoir voyager, Alejandro se consacre désormais à faire la queue, ce qui lui a d'ailleurs valu dernièrement une amende et un antécédent pénal pour avoir revendu sa place dans une file d'attente. À Cuba, les denrées et produits sont rationnés. Alors cette famille se déplace en groupe pour faire la queue. Acheter plus et revendre. Mais l'activité est risquée en ces temps de pénurie, alors Maria a augmenté ses prix.
On y va tous les 4 et au lieu d'acheter 5 livres par personne, on peut acheter 20 livres. On en garde 5 pour la maison et on en vend 15. Mais ce n'est pas facile de faire la queue, il faut supporter tout un tas de choses, le soleil, la soif, la faim, la police aussi qui te sort de la queue et te dégage parce qu'ils savent qui sont les revendeurs et on est fichés.
Mais ces activités illégales résolvent bien des problèmes à certains Cubains. La jeune Virgen Olivera a repris le travail à la rentrée, alors pour s'approvisionner, elle doit se tourner vers le marché noir.
C'est plus cher d'acheter aux revendeurs, mais je ne peux pas me permettre de faire la queue. Un produit qui se vend 6 dollars en magasin, je l'achète 15 dollars dans la rue. C'est plus du double, mais c'est comme ça. Ce n'est pas simple.
Si Alejandro et sa mère se consacrent donc à faire la queue à la place de Virgen, Maria, la mère, a aussi un travail légal dans une usine d'État de laquelle elle sort régulièrement les bras chargés de viande hachée volée qu'elle revend ensuite chez elle, ce qu'elle explique en baissant d'un ton.
Moi, je m'en sors un peu mieux dans la vie parce que je travaille dans un centre de transformation alimentaire. Mais ceux qui n'ont pas cette opportunité et qui travaillent dans des centres de paperasse et qui vivent d'un salaire d'État doivent attendre à la fin du mois pour percevoir 400 ou 500 pesos. Au moment de recevoir leur salaire, ils dépensent tout et il ne leur reste rien.
Le salaire moyen est de 40 dollars. Alors pour compenser, les travailleurs du secteur étatique se servent régulièrement dans les frigos d'usine. Ces vols ne sont même plus considérés comme un crime par la population tant la pratique est généralisée. L'agriculture n'échappe pas non plus à son lot d'illégalité. À Cuba, les paysans ont obligation de vendre à bas prix leur production à l'État, mais les conditions de vie difficiles à la campagne poussent certains à détourner une partie de leur production. Le paysan Ernesto Hernández García, qui se dit profondément révolutionnaire, considère que les défaillances du système économique cubain sont liées à ces malversations.
Dernièrement, ils en ont attrapé un qui cachait 20 containers d'oignons dans une chambre froide. Ce qui se passe, c'est que ce pays est plein de voleurs. Nous avons des problèmes économiques parce que parmi le peuple, il n'y a que des voleurs.
Et contre ces voleurs, l'État a d'ailleurs engagé une grande offensive médiatique. Chaque soir à la télévision, si ce n'est pas un ministre qui vient dénoncer le marché noir comme pour justifier les difficultés économiques du pays, c'est un reportage sur une opération de police contre un trafic de denrées qui est diffusé. Pour certains Cubains, il s'agit plutôt d'une chasse aux sorcières dans un pays où l'État entend tout contrôler depuis 60 ans de révolution. Mais cette arme médiatique de dissuasion fonctionne. Le jeune Alejandro ne s'était auparavant jamais senti menacé dans son petit business illégal.
Bien sûr, tout le monde a peur d'avoir des problèmes avec la justice. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des besoins? La nécessité oblige, la peur ne te remplit pas l'estomac. Et l'estomac, ça ne lui importe pas de savoir que tu as peur, qu'il y a le coronavirus ou une crise économique. Quand l'estomac crie, c'est de la nourriture qu'il faut lui donner.
Domiti Piron, Alguin, RFI.
Il est 9h22 à La Havane. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Julie Straboni. Bonjour Julie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, la Covid-19 impose de nouvelles mesures sanitaires en Guyane.
Camopi a été de nouveau confiné pour 15 jours à compter de ce jeudi. La commune se trouve sur les bords du fleuve Oyapock, une frontière naturelle commune avec le Brésil. C'est une décision du préfet Marc Delgrande, il répond à Mélodie Nourry.
Nous sommes dans un contexte à Camopi où nous sommes face à un voisin qui a un niveau d'épidémie qui est plus important que le nôtre. Donc l'idée aussi c'est de protéger Saint-Georges de l'Oyapock, d'éviter des contaminations par des mouvements le long du fleuve. L'épidémie est stable en Guyane. Nous sommes avec une incidence qui est très très proche du seuil d'alerte, un taux de positivité qui a un peu augmenté au cours des tout derniers jours, tout simplement parce qu'à Camopi, on avait un taux de positivité qui était très très important et qui a fait grimper un peu, on est passé d'un taux de positivité légèrement en dessous de 5 à légèrement au-dessous de 6, donc vous voyez, ça ouais. N'est pas dramatique, mais c'est en prenant les mesures au bon moment que nous comptons éviter une reprise de l'épidémie.
La pollution au chlordécone, la situation n'a pas évolué depuis que la commission parlementaire a rendu son rapport. C'est l'avis en tout cas des députés de la Martinique, Serge Letchimy et Josette Manin, qui ont organisé une conférence de presse hier à ce sujet. Jean-Baptiste Anatole.
Absolument rien n'a bougé dans le dossier chlordécone. La commission d'enquête parlementaire dirigée par le député Serge Letchimy a produit 49 propositions qui n'ont même pas été regardées par le gouvernement. Serge Letchimy.
Il y a effectivement un rapport de force avec l'État. On sent que l'État n'a pas envie de s'engager dans un processus de réparation, alors que c'est un processus obligatoire, incontournable. Il y a des Martiniquais qui sont victimes de cela. Notre production locale est victime de ça, la pêche, l'agriculture. Il faut absolument entrer dans une ère de réparation.
Un processus de réparation et d'indemnisation qui ne semble pas pour l'instant intéresser le gouvernement. Josette Manet, députée de la Martinique.
Le gouvernement nous a toujours menés en bateau, surtout. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit toujours offensif, qu'on ne lâche pas, parce que à partir du moment où on lâche le morceau, le gouvernement il se tourne vers autre chose. Il y a des promesses qui sont faites, mais des toutes petites doses de promesses, il faut qu'on aille plus loin justement pour que ça puisse augmenter et que ceux qui viennent après nous puissent justement continuer ce combat-là.
Tous les ministres sont alertés, le président de la République est au courant, nos parlementaires ne vont pas baisser les bras.
Enfin, on l'appelle l'affaire des ananas. Là, il s'agissait d'une campagne pour la distanciation physique imaginée par la préfecture de la Martinique à la sortie du confinement. Eh bien, elle sera finalement jugée à Paris. 7 citoyens martiniquais avaient porté plainte contre le préfet pour injure publique à caractère racial. Bonne journée, à demain.
À demain et bonne journée à vous. Merci pour ce journal Outre-mer, la première.
RFI à Cap-Haïtien, 100.5 FM.
Direction Haïti à présent pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour.
À la une aujourd'hui, le budget de 254 milliards de gourdes adopté hier par le gouvernement haïtien. Qu'est-ce qui caractérise ce budget, Franz?
Alors, c'est le deuxième budget qui est approuvé par le gouvernement haïtien, sans passer par le Parlement, car le Parlement est dysfonctionnel. Le gouvernement a fait le budget et a approuvé le budget en Conseil des ministres. Ce budget est spectaculaire, c'est la première fois qu'un gourde a été un budget aussi important, 254 milliards de gourdes, c'est 30% d'augmentation comparé à celui de l'année d'avant. Mais c'est surtout un budget spectaculaire en dollars, car le précédent budget pesait 1,8 milliard de dollars contre près de 4 milliards de dollars pour celui-ci. Il faut dire qu'entre les deux budgets, la gourde a pris de la valeur face au dollar, beaucoup de valeur.
Alors, autre titre dans l'actualité haïtienne, France, le miracle réalisé par le président Jovenel Moïse, selon le Nouvelliste, puisque depuis quelques semaines, la gourde, la monnaie haïtienne, vous en parliez, ne cesse de s'apprécier face au dollar.
Tout à fait, c'est le premier miracle que le président a réussi, celui sur lequel le Nouvelliste met l'accent ce matin. De 122 gourdes pour un dollar, nous sommes à 64 gourdes pour un dollar en quelques semaines. Le président a survécu aussi à toutes les tentatives de l'opposition de le mettre à bas. Le président a résisté au pays loc, le président a résisté à la COVID, le président a résisté à quasiment toutes les crises. Il a réussi à faire une coalition avec la communauté internationale qui accepte sa vision, sa façon de voir et de conduire Haïti. Il dirige le pays sans contre-pouvoir, le Parlement est dysfonctionnel et la justice est en grève quasi permanente. Le président tout seul décide de tout, mais il va se présenter devant un combat important, réaliser des élections inclusives et essayer de changer la constitution haïtienne.
Franz, toujours concernant ce niveau de la gourde, la ville des Cailles donne un exemple de l'effet inattendu du renforcement de la devise.
Alors, si les produits importés, les produits de première nécessité comme en Haïti, les produits sont consommés de façon courante, les prix ont chuté, parce que ce sont des produits importés, ont chuté de façon spectaculaire. Pour les produits et les services produits localement, c'est pas le cas. Et les vivres produits par les cultivateurs haïtiens ou bien les services que les ouvriers haïtiens offrent, tous ces prix sont restés calqués au prix de la gourde avant et le renforcement de la gourde face au dollar. Ça cause déséquilibre. Ceux qui produisent localement et qui doivent vendre très cher parce que les coûts de production sont très élevés et ceux qui importent et qui sont en mesure de brader leur prix car la gourde a pris beaucoup de valeur. On ne s'attendait pas à ça, mais il se trouve que la production nationale haïtienne va prendre un coup avec la gourde forte. On va avoir tendance à importer presque tout.
Merci beaucoup Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Très bonne journée à vous. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. Restez avec nous sur la Radio du Monde. Tout de suite, votre émission sur la francophonie de vive voix avec Pascal Paradou.
RFI, toute l'actualité à retrouver sur RFI.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr. cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.